Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Paru en langue anglaise en 1994, le livre « Diplomatie » de l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger fait figure de classique de la pensée politique étrangère et des relations internationales. Après des décennies de domination de l'histoire sociale, l'auteur réhabilitait les champs politiques en donnant une place primordiale aux grandes figures de notre histoire et à leur vision du monde, de Richelieu à Bismarck, de Roosevelt à Reagan, de Napoléon III à l'allemand Gustav Stresemann, Kissinger défendait dans son livre une approche réaliste de la politique étrangère qui s'appuie à la fois sur la raison d'État, mais aussi sur ce qui est appelé communément la réelle politique. Dans cette approche, la place de l'histoire est évidemment essentielle. L'histoire éclaire le présent et permet de mieux comprendre les possibilités de l'avenir. La politique, dit le penseur, est l'art du possible. Histoire et temps présent sont entremêlés, charge aux responsables de déceler et de comprendre son époque afin d'anticiper le monde de demain. Néanmoins, il y a un grand absent dans le livre de Kissinger. En effet, dans cet ouvrage de plus de 860 pages, nous ne trouvons guère le nom de l'ancien ministre de Louis XVI, Vergennes. Or, n'est-ce pas Vergennes qui fut secrétaire d'État aux affaires étrangères au moment de la guerre d'indépendance américaine? N'est-ce pas aussi le nom de Vergennes qui est associé au traité de Versailles qui, en 1783, consacre l'affaiblissement de l'Angleterre et de la Royal Navy? Enfin, le temps de Vergennes ne correspond-il pas à l'apogée de la puissance française en Europe? Storia Voce vous propose aujourd'hui de connaître, de comprendre ce ministre, méconnu, mais dont le rôle dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire de la pensée politique et des conceptions des relations internationales, fut essentiel. Bernard de Montferrand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une fois n'est pas coutume, je reçois un diplomate, et c'est un honneur pour moi que de recevoir un diplomate au micro de Storia Voce. Votre carrière est très riche, vous êtes passé par Singapour, par les Pays-Bas, par les Indes et le Japon. Votre carrière a été couronnée par une ambassade en Allemagne et vous avez travaillé pour Talendier sur une biographie de Vergennes, Vergennes, la gloire de Louis XVI, et c'est un livre qui a été honoré par l'Académie française puisque vous avez reçu le prix de la biographie. Alors Bernard de Montferrand, ma première question, ma foi, sera assez simple, je l'ai esquissé à travers mon introduction. Vergennes est un personnage oublié. Or, si on pouvait le comparer avec un autre grand personnage dans le cadre de la politique étrangère, c'est Talleyrand. Pourquoi cette différence de traitement entre Talleyrand d'une part et Vergennes de l'autre?
Alors, merci de votre hospitalité aujourd'hui et de me permettre de parler d'abord de mon métier, parce que j'ai passé toute ma vie professionnelle au ministère des Affaires étrangères, et ensuite d'un sujet qui est la vie d'un très grand ministre, qui m'a paru être importante pour réfléchir aujourd'hui aussi sur la politique étrangère. Et ce qui m'avait frappé, comme vous l'avez rappelé, c'est la manière dont Vergennes, qui en France est un très grand nom, mais quand vous demandez même aux historiens, quelquefois, ce qu'il y a derrière ce grand nom, qui est un très grand nom pour les diplomates, mais quand vous demandez aux diplomates qui font beaucoup moins d'histoire qu'avant, ce qu'a réellement fait Vergennes, quelle était la dimension de Vergennes, on sent qu'il y a une assez grande méconnaissance. Non pas qu'il n'y ait pas eu des livres écrits, il y a eu des très bons livres écrits sur lui, mais il a, je crois, été en quelque sorte un peu balayé, d'abord parce que l'histoire, c'est-à-dire l'arrivée de la Révolution juste après sa mort, a au fond été une espèce d'ouragan qui a fait passer cette période que vous soulignez comme une grande période d'équilibre de l'Ancien Régime, elle l'a fait passer complètement à la trappe. Et ensuite, parce que le personnage lui-même est un personnage qui est un personnage extrêmement sérieux, extrêmement travailleur, extrêmement constant, mais qui, à la différence de beaucoup de brillants libertins ou de brillants personnages du XVIIIe siècle, et en particulier Talleyrand auquel vous le compariez, est quelqu'un qui n'a pas fait de mot d'esprit, qui n'a pas brillé par ses capacités mondaines, et donc il était moins attirant, si vous voulez, que d'autres.
Il est austère. Il a une forme d'austérité.
Beaucoup plus austère, on y reviendra dans la formation de sa personnalité. Son grand-père était protestant, il y a une tradition d'études dans sa famille, donc c'est pas quelqu'un qui était drôle, qui était piquant, qui faisait des mots d'esprit toutes les cinq minutes. Mais en revanche, quand on regarde par exemple, par rapport à Talleyrand, quand on regarde son bilan, bon, Talleyrand n'a pas réussi à modérer l'espèce de dynamique incroyable qui était celle, et de démesure qui était celle de Napoléon. Il n'a pas réussi à freiner Napoléon dans ce redécoupage incroyable de l'Allemagne. Il n'a pas réussi à freiner Napoléon dans la guerre d'Espagne. Il n'a pas réussi à le freiner dans l'aventure russe. Il s'est rattrapé magistralement au congrès de Vienne. Il a permis la création pacifique de la Belgique en 1830. Mais quand on regarde de l'autre côté Louis XVI, Vergennes, il a réussi, lui, par une espèce de thérapie et de relation exceptionnelle avec ce roi qui avait beaucoup de difficultés à se décider, justement à lui donner une capacité à prendre des décisions. Il a rétabli la puissance de la France à peine 10 ans après le traité de Paris de 1763, qui était considéré en France comme vraiment une honte, quelque chose qui avait terni la puissance française. Je vous rappelle qu'à l'époque, la France, c'était l'hyperpuissance européenne, c'était la grande puissance continentale. Et il a, comme vous l'avez dit, mis un coup de frein, un coup d'arrêt à la toute puissance de la Navy sur les mers qui voulait absolument tout contrôler. Et surtout, il a replacé la France au centre de tous les équilibres européens. Et l'a fait accepter en Europe, alors que la France était toujours, justement du fait de son hyperpuissance, toujours très suspectée. On se méfiait des initiatives que prenaient les Français. Et lui a réussi à faire en sorte que tous nos voisins, y compris les petits, qui étaient par exemple la Suisse ou les Pays-Bas, qui sont un peu des marqueurs de la modération française, nous acceptent de manière sereine.
Est-ce que dans votre introduction, vous définissez ce qu'est un grand ministre des Affaires étrangères, ce qu'il a été? Vergennes est un éclairage pour notre époque. Il y a une permanence de la pensée de Vergennes.
Alors, moi, j'essaie justement de réfléchir à qu'est-ce qui fait la différence entre un grand ministre et un ministre normal. Tous les ministres d'affaires étrangères, en général, sont des gens qui sont au sommet de leur carrière, qui sont intelligents, brillants, etc. Mais au fond, qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui a vraiment marqué son époque? Je crois qu'il y a deux. Moi, j'essaie de définir ça à travers deux critères. Le premier critère, c'est la capacité à définir les intérêts de la France. Bon, quelles que soient les époques, quels que soient les ministres, un ministre des Affaires étrangères ou un pouvoir politique est mille fois sollicité par toutes les crises qui sont dans le monde. Ça n'est jamais calme. On vous raconte quelquefois qu'à certaines périodes, tout était un long fleuve tranquille. C'est jamais le cas. Il y a toujours des crises un peu partout. On vous appelle pour intervenir, pour prendre parti d'un côté ou d'un autre dans telle crise. Le grand ministre, c'est celui qui sait dire, voilà, dans tous ces dérangements, dans tous ces déséquilibres, il y a deux ou trois domaines qui sont fondamentaux pour les intérêts de la France, et voilà où je vais m'engager en sachant sur quel levier peser pour que ça soit efficace. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On nous demande d'intervenir au Sahel, au Moyen-Orient, dans beaucoup d'autres endroits. Quels sont les endroits où c'est important pour les intérêts de la France et on peut être vraiment efficace? Deuxième grand critère, j'allais dire, d'un grand ministre, c'est sa capacité à définir une sorte de concept des relations internationales qui réunissent un peu tout le monde. Le consensus mondial, c'est impossible. Mais il peut y avoir tout de même une convergence sur un certain nombre de principes. Et Vergennes, lui, on y reviendra, je pense, mais a défini un principe d'équilibre, mais d'équilibre européen, pas au service de la France. Les Anglais, autrefois, faisaient toujours de l'équilibre. Ils font ça comme M. Jourdain fait de la prose depuis des siècles et des siècles. Mais c'était au service des intérêts anglais. Et Vergennes a été extraordinairement novateur. Il a dit, il faut que cet équilibre soit au service d'une notion qui est le droit public. Et ça, mettre le réalisme, c'est-à-dire la réelle politique que vous rappeliez, au service d'une idée universaliste qui est celle du droit public, c'est extraordinairement novateur et mobilisateur, parce que ça réunit presque tout le monde. Et le droit public, qu'est-ce que c'est ? Ben, ce sont les quelques règles à l'époque acceptées dans des traités, dans des accords, par un certain nombre de pays.
Alors, venons-en aux origines, puisque nous allons découvrir ce personnage au fur et à mesure. Vous parliez de droit. Il est issu d'une famille de juristes. Il est bourguignon, tout d'abord, et il ne s'appelle pas encore Vergennes.
Oui, alors je ne suis pas revenu sur la généalogie de Vergennes. Il y a eu des études là-dessus très très approfondies. Je me dis au fond qu'est-ce qui est marquant dans l'ADN, les facteurs sociaux déterminants de la formation d'une personnalité comme celle de Vergennes. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Le premier, c'est la Bourgogne. Ce qui est frappant, c'est que tous ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ils sont tous bourguignons. Il y a une espèce d'enracinement dans cette province française qui est extrêmement forte. Et tout grand ministre en France a toujours eu une espèce de relation physique presque avec un terroir ou une origine régionale. Bon. Le deuxième facteur, c'est le droit. C'est-à-dire que depuis trois générations, chez les Vergennes, on fait du droit. On n'a pas hérité de telle ou telle fortune ou autre, on a fait des études. Et on a fait des études pour entrer dans les milieux parlementaires ou les offices royaux de finances dans la grande région bourguignonne. Le troisième facteur qui m'est apparu, moi, comme important, c'est le fait que sa famille était protestante jusqu'à son grand-père. Pourquoi ? Parce que si on restait protestant, on pouvait pas être parlementaire. Bon, et donc la famille part d'une certaine, comme énormément de familles françaises d'ailleurs, par opportunisme, après avoir été pendant quelques générations protestants après la réforme, et ben sont revenus tranquillement vers la Sainte Église catholique. Bon, et donc je pense que le côté protestant, ce sens de la culture, a probablement marqué Vergennes. Il y a un troisième facteur qui m'est apparu extrêmement important dans sa formation, c'est le fait qu'il a eu en quelque sorte un parrain ou un mentor dans sa vie, qui était un personnage ahurissant, qui s'appelait Chavigny. Et c'était un oncle à la mode de Bretagne, c'est-à-dire un frère de son grand-père, par le frère de son grand-père, qui, lui, était sorti de la Bourgogne, c'était pratiquement le seul de la famille, et après des aventures extravagantes que Saint-Simon décrit avec délectation, faisait une carrière exceptionnelle de diplomate, un peu comme l'abbé Dubois, cet apothicaire de Brive, qui était devenu ministre des Affaires étrangères et quasiment Premier ministre. Il a fait une carrière extrêmement bien et a proposé à Vergennes, qui venait de faire ses études de droit à Dijon, de l'emmener avec lui. Et ce personnage avait un culot d'enfer, avait une intelligence extraordinaire, avait un savoir-faire relationnel exceptionnel. On trouve des appréciations sur lui, aussi bien du duc de Newcastle, qui était un des premiers ministres insubmersibles anglais, que de Voltaire, qui en parle dans des correspondances, que de beaucoup de monde qui disait que cette personne avait une espèce de don, de talent, de diplomate tout à fait exceptionnel, et surtout de relations sociales.
Il faut se remettre... Il n'y a pas d'école, en fait, il n'y a pas d'école pour les ambassadeurs à cette époque, et Vergennes se forme sur le tas grâce à ce Chavigny.
Absolument. Alors, il y avait eu une école qui avait été créée au début du XVIIIe siècle, qui a été supprimée parce que il y en avait qui trouvaient qu'on les faisait trop travailler, les étudiants, et puis que c'était un peu superficiel. Et Chavigny, d'ailleurs, l'oncle de Vergennes, avait suivi des cours dans cette fameuse école. Et ça avait été supprimé, donc comment est-ce qu'on recrutait les diplomates ? On les recrutait le plus souvent parmi des aristocrates ou des milieux d'église qui étaient éduqués, et qui, chez les aristocrates, souvent avaient été des militaires avant. Et à partir d'un certain grade, on disait, ah ben lui, il a vraiment des capacités, il a des vues assez larges, il a une vaste culture, donc on l'envoie comme ambassadeur. Mais pour former des jeunes, en général, c'était un ambassadeur relativement chevronné qui recrutait souvent quelqu'un de sa famille ou un ami d'un de ses parents. On appelait ça des gentilshommes d'ambassade. Ils ne les payaient pas beaucoup, d'ailleurs, et ils les emmenaient avec eux en poste, et ils les formaient, et c'était une formation sur le tas. Et Vergène a dit une phrase, une belle phrase, disant « J'ai longtemps été sur le parterre avant de monter sur la scène ». Et effectivement, il a été un des rares diplomates de cette époque qui a, en suivant Chavigny, eu des expériences extrêmement nombreuses et diverses, et donc une sorte de formation professionnelle très complète, que ce soit dans la diplomatie bilatérale, puisqu'il l'a accompagné à Lisbonne, où là c'était la manière d'être présent dans une cour, de savoir ce qui s'y passe, de développer les intérêts économiques français, de développer l'influence française, de faire aussi de la représentation du pays. Il a été aussi, après, ministre plénipotentiaire auprès de l'électeur de Trèves, et ça c'était aussi de la relation bilatérale. Ensuite, il a été envoyé au congrès de Hanovre, qui était de la diplomatie multilatérale, c'était pour assurer la succession d'Autriche, et les Anglais voulaient que on réunisse une sorte de congrès de tous les princes de l'Empire allemand pour faire élire très rapidement un roi des Romains, et Vergène devait s'y opposer, et donc c'était ce qu'on appelle de la diplomatie multilatérale, c'est-à-dire d'avoir, dans une sorte de congrès, à manœuvrer entre de très nombreux électeurs et essayer de pousser les uns, de retenir les autres. Ça se passait aussi avec des sommes d'argent, bien entendu. Donc c'était une expérience très nouvelle. Ensuite, il a eu cette fameuse expérience pendant très longtemps d'être ambassadeur en Turquie, ce qui lui a donné une vision du monde naturellement complètement différente, parce que vu de Constantinople, l'Europe, c'est pas la même chose que vu d'Allemagne ou vu de Paris. Ensuite, il a eu une expérience aussi tout à fait étonnante. Il a été ambassadeur dans un pays, la Suède, où on lui a demandé de faire ce qu'on appelle aujourd'hui, les anglo-saxons appellent ça le changement de régime, le regime change, cette fameuse chose où on fait un coup d'État, en quelque sorte. Et Vergène a été le conseiller du roi de Suède pour faire un coup d'État. La royauté, la monarchie suédoise était pieds et mains liés par le Parlement, finalement le roi a repris sa position de monarque absolu. Mmh. Et puis, dans tous ses postes, il a appris aussi quelque chose de très important à l'époque comme aujourd'hui, d'ailleurs, le rôle des services spéciaux ou des services secrets, puisqu'il était, à partir du moment où il était ambassadeur en Turquie, il était membre du secret de Louis XV, c'est-à-dire cette espèce de réseau de diplomatie secrète parallèle au système officiel, en correspondant avec le roi à travers plusieurs truchements, par des histoires d'espions et de tout à fait à la John le Carré, mais qui naturellement lui a donné une vision très particulière de la politique étrangère et du secret.
Alors, avant de venir à son poste de secrétaire, de ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il est important de rappeler les deux grands fondements de la politique étrangère à cette époque, et vous le décrivez dans votre ouvrage. La politique étrangère de la France et même de l'Europe est dictée par deux grands traités qu'on a malheureusement un peu oubliés, à la fois le traité de Westphalie du XVIIe siècle, du milieu du XVIIe siècle, et à la fois le traité d'Utrecht. Quels sont les éléments donc déterminants de la politique étrangère de la France à cette époque ?
Je crois que, un peu comme aujourd'hui, quand un diplomate arrive au ministère, un jeune diplomate arrive au ministère des Affaires étrangères, on lui enseigne en quelque sorte une espèce de logiciel ou un certain nombre de réflexes sur l'analyse de la société internationale. Et naturellement, aujourd'hui, les schémas ont été très marqués par les grandes analyses du général de Gaulle, qui sont toujours très présentes dans la structure de réflexion des Français. À l'époque, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce que Vergennes a appris de son oncle, enfin de son oncle à la mode de Bretagne, Chavigny? Je crois les quelques grands principes. Le premier. C'était la division de l'Allemagne. La France a des chances d'être en paix si du côté de l'Est, à sa frontière directe, l'Empire allemand est comme divisé. On dit, équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune puissance qui l'emporte trop. Et la France, vous l'avez cité du fait des traités de Westphalie en 1648, avait été faite gardienne des libertés germaniques. C'était un mot extraordinairement ambigu, puisque liberté germanique, pour nous, c'était s'assurer de la division de l'Allemagne. C'est-à-dire que tous les petits princes soient libres face à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire à l'empereur d'Autriche. Et donc à éviter que l'empereur d'Autriche n'ait une emprise trop importante sur l'ensemble de cet empire qu'on souhaitait garder émietté, divisé, avec beaucoup de petites principautés, ce qui nous évitait qu'il soit menaçant. Donc, première chose, maintenir la division de l'Allemagne. Deuxième, et la maintenir comment ? Eh bien, en ayant des relations avec tout le monde, et puis, de temps en temps, en aidant un tel par des subsides, en manœuvrant tout ce monde très compliqué. La deuxième grande idée de la diplomatie française, c'était les alliances de revers. C'est-à-dire, qui étaient pour nous les gens dangereux ? C'était les Prussiens et les Autrichiens. Et donc, pour gêner les Prussiens et les Autrichiens, et éventuellement les Russes, qu'on considérait comme une grande puissance potentielle extraordinairement dangereuse, c'était de faire agir les Turcs, qui étaient nos amis depuis François Ier, c'était de faire agir, de protéger l'indépendance de la Pologne, et de faire agir la Suède, qui autrefois était une puissance extrêmement... qui, sur le plan militaire, avait une vraie existence. Et donc, chaque fois que les Autrichiens essayaient de nous ennuyer un peu trop, on poussait les Turcs dans les Balkans ou ailleurs à faire pression sur eux, ce qui les calmait aussitôt. Quand les Russes voulaient gêner l'indépendance de la Pologne, on demandait également aux Turcs de bouger, et aussitôt les Russes avaient sur leur frontière sud une menace. Et pour la Prusse ou pour d'autres pays également, la Suède était également une puissance qui empêchait la Russie de s'étendre vers la Finlande et vers la Suède également, et qui protégeait également l'indépendance des principautés allemandes. Et c'était cet ensemble qui nous permettait d'assurer un certain équilibre. Et c'était cet ensemble, quand on le tenait bien en main, qui évitait, et ça c'était le traité d'Utrecht, à la fin du règne de Louis XIV,
1713.
En 1713, qui empêchait l'Angleterre de s'allier avec les puissances continentales. Et chaque fois que Louis XIV avait eu en face l'Angleterre, quand il avait les puissances continentales ou l'Angleterre séparément, pas trop de problème. Dès qu'il avait l'Angleterre plus les puissances continentales contre lui, alors à ce moment-là, c'était extrêmement dangereux. Et donc, la politique qu'avait menée après Louis XIV, après le traité d'Utrecht, le cardinal Fleury, comme le cardinal Dubois, etc., consistait à éviter à tout prix que les puissances maritimes ne s'allient avec les puissances continentales contre nous. Et c'est pour ça que nous avions développé à l'époque une relation extrêmement apaisée et fructueuse avec la Grande-Bretagne, pas la Grande-Bretagne, parce que ça n'existait pas encore, avec l'Angleterre. Et c'était tout cela qui était un peu le logiciel d'un diplomate qui travaillait dans ces années-là. Et évidemment, deux écoles. Il y avait l'école des continentaux, plutôt, et puis l'école des puissances maritimes. Et la grande erreur de la guerre de 7 ans que Vergennes avait observée de manière très attentive avec son oncle, c'est que la France, et la France de Louis XV, au lieu de voir que l'Angleterre était sa principale rivale, s'était lancé dans des guerres continentales, en allant prendre Prague, en allant faire des campagnes, et on avait en quelque sorte perdu le Canada, perdu l'Amérique et perdu l'Inde en Bohême. Au lieu de s'appuyer sur le problème fondamental qui était d'équilibrer l'Angleterre. Et Vergennes a été extraordinairement marqué par cette dispersion des forces françaises en disant « ne nous engageons jamais sur le continent ». Si nous n'avons pas un but extraordinairement précis, parce que nous allons nous disperser, et à ce moment-là, dès qu'on aura nos forces engagées sur le continent, les Anglais auront les mains libres sur mer, et nous n'avons pas les moyens d'avoir à la fois une énorme marine et à la fois une armée terrestre considérable. Il faut choisir l'un ou l'autre.
Comment vit-il ? Parce qu'il y a ce que vous décrivez dans votre livre, la révolution diplomatique du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on a appelé le renversement des alliances. Le renversement des alliances, lui, est en Turquie, et ce n'est pas une chose facile pour lui à gérer. D'ailleurs, après son poste en Turquie, il va avoir... il va vivre un peu son purgatoire, et il n'aura pas un parcours aussi facile que cela.
Louis XIV, à sa mort, avait conseillé de se réconcilier avec l'Autriche, en disant, au fond, l'Autriche n'est plus l'adversaire héréditaire de la France, l'ennemi qui restera toujours l'ennemi de la France. Et vous savez que dans les mentalités de l'époque, il y avait toujours le fait que depuis deux siècles, la France était prise en tenaille par les Habsbourg. Il y avait la partie sud de la tenaille qui était les Habsbourg qui étaient en Espagne. Il y avait la partie nord des Habsbourg qui étaient dans les Pays-Bas, c'était les mêmes. Enfin bon, et puis il y avait l'Autriche et tout ça. Nous coinçait, si j'ose dire, c'était une menace stratégique extrêmement forte. Et Louis XIV avait dit, il faut renverser ça. Et quand il a, après sa mort, ses recommandations n'ont pas été suivies, on a voulu remodifier à nouveau les cartes, et ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard, en 1756, que l'abbé de Bernis, poussé par la Pompadour, avec un certain nombre de personnes et Louis XV convaincus, ont décidé de signer un traité en quelque sorte d'alliance et de réconciliation avec l'Autriche. Et à cette époque, Vergennes était ambassadeur en Turquie, à Constantinople. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un ambassadeur français à Constantinople, qu'est-ce que ça faisait dans le logiciel traditionnel? Ça expliquait toute la journée aux Turcs que les Russes et les Autrichiens étaient des gens épouvantables, que c'était leurs ennemis et qu'il fallait les équilibrer. Et que si les Russes, par exemple, mangeaient la Pologne, une fois qu'ils auraient avalé la Pologne, ils se précipiteraient sur les Turcs et pour les attaquer, et que donc il fallait prêt à combattre les Turcs. Et du jour au lendemain, Vergennes, qui est à des milliers de kilomètres de Paris, apprend que la Turquie, dont il avait dit pique-pendre aux Turcs, devient tout d'un coup notre ami. Et ce qui fait que les Turcs sont extraordinairement surpris de ce changement de pied total, en disant, mais après tout, vous nous avez expliqué que ces gens étaient des ennemis, ils deviennent vos amis, mais ils sont toujours nos ennemis à nous. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, si les Autrichiens nous attaquent demain, est-ce que vous allez nous défendre ou non ? Et Vergennes était extrêmement gêné pour répondre. Il a essayé de tourner les choses de tous les côtés.
De faire la diplomatie.
Mais le ministre de l'époque lui a dit, je conçois que vous soyez effectivement dans une situation extrêmement difficile. Vergennes a demandé qu'on lui envoie des cadeaux pour les Turcs, il essayait par tous les moyens d'expliquer ce qui était pour les Turcs très difficilement explicable. Ça a placé en porte-à-faux de manière très difficile.
Quel type d'homme est Vergennes ? Vous le montrez comme un homme très loyal, très loyal, bien évidemment, à l'égard du roi. Mais quel était son caractère? On l'a vu, vous l'avez présenté comme travailleur. C'est un homme qui passe son temps à faire des rapports, à écrire, ses bureaux, vous décrivez ses bureaux et ses équipes qui travaillent, qui constamment, on n'est pas dans, j'allais dire, on n'est pas dans l'emportement, on n'est pas dans l'image, on est vraiment dans un homme on a un homme de bureau en face de nous, c'est ce qui le caractérise.
Alors, il y a deux choses, il y a la personnalité de Vergène, et puis il y a ses méthodes de travail, je veux dire. La personnalité de Vergène, on a dit un mot tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est d'une très bonne noblesse bourguignonne, mais récente, et qui évidemment, à la cour, se retrouve face à des grands, qui ont une insupportable arrogance, qui ont des réflexes de sarcasme, de méchanceté extrêmement fortes, qui sont quelquefois très vains. Tous ces milieux de libéraux, souvent très très superficiels, très intelligents mais très superficiels. Et Vergène, face à cette catégorie de personnages qu'on rencontre souvent à la cour, lui est très très différent. C'est un travailleur, c'est quelqu'un qui n'est pas brillant, c'est quelqu'un qui, socialement, se sent un peu inférieur, si j'ose dire, face à tous ces personnages, et qui essaye de compenser tout ça par la solidité de son argumentation, par la solidité de ses jugements de politique étrangère, et qui va dans ce domaine avoir d'abord un certain courage politique. Quand il arrive à Versailles en 1774, il arrive de Suède. Il faut un moment pour arriver de Suède à Paris. Il arrive quand le gouvernement est déjà en partie constitué. Et lui, il n'a aucun poids politique, puisqu'il n'a pas de coterie à Paris, il n'a pas de soutien politique. Sinon, sa carrière, sa réputation...
C'est pas un homme de cour, en fait.
C'est pas du tout un homme de cour. Bon. Il sait très bien manœuvrer. Hein. Il ne faut pas penser que c'est un naïf du tout. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas une assise politique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le Premier ministre, le quasi-Premier ministre, ou le principal ministre, sans en avoir le titre, qui est Maurepas à l'époque, lui fait très vite comprendre que s'il a été nommé, c'est parce que lui, il a fait nommer auprès de Louis XVI, et que par conséquent, il n'a pas trop à faire d'originalité ou de montrer. Or, à l'époque, il y a un premier grand problème politique qui se pose tout de suite, c'est: faut-il rappeler les fameux parlements que Maupoux avait envoyés en dehors de Paris, qu'il avait dissous, qu'il avait remplacés par des parlements plus professionnels, payés par l'État, ou non? Et c'était une des grandes réformes de la fin du règne de Louis XVI, et c'était une réforme extraordinairement importante pour la monarchie. Et Vergène est quasiment le seul au sein du Conseil, alors qu'il arrive de l'extérieur et qu'il a été pendant plus de 20 ans à l'étranger. On a dit, c'est pas un ministre des Affaires étrangères, c'est un étranger qui devient ministre, parce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'il connaît à la France s'il n'a pas été en France depuis si longtemps? Eh bien, dans la séance du Conseil, on discute de ça, il est pratiquement le seul, et Edgar Faure le décrit très bien dans son Turgot, à faire un long exposé pour dire non, je pense que c'est une erreur de rappeler les anciens parlements, avec toute une argumentation extrêmement forte. Donc c'est quelqu'un qui a un courage politique effectif. Bon. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui, quand il arrive au ministère des Affaires étrangères, a des idées sur la manière dont ça doit être organisé. D'abord, c'est quelqu'un qui veut faire de la coordination interministérielle. Et je cite des passages de dépêches ou de textes. C'est pas évident à la fin du XVIIIe siècle de faire de la coordination interministérielle. Or, on sait aujourd'hui combien c'est important que les ministres se parlent, qu'il y ait des réunions interministérielles pour faire en sorte que ce que fait la marine ne soit pas trop différent de l'armée du ministère de la guerre et des affaires étrangères. Ça a des interférences très fortes les unes sur les autres. Deuxième chose, il veut simplifier la structure du ministère des affaires étrangères à l'époque. Troisième chose, on le verra dans la politique financière, il est un des rares à vouloir une concentration des pouvoirs de politique financière entre les mains du contrôleur général. À l'époque, je vous rappelle, un ministre, l'indépendance de chaque ministre était très très importante. Chaque ministre décidait, dans ce, comme on appelait cela à l'époque, dans son travail hebdomadaire avec le roi, de ses dépenses. Et seul le roi pouvait faire la correspondance et faire une espèce de centralisation des dépenses. Et Vergennes dit, il est capital qu'un ministre ne puisse pas engager des dépenses sans l'accord du contrôleur général. En Angleterre, ça existait depuis une centaine d'années. En France, un ministre pouvait dépenser sans que le ministre des Finances soit vraiment informé. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie vision de l'administration, de méthodes en matière de gestion, etc. Je trouve que c'est assez important. Alors c'est quelqu'un aussi qui a un anticonformisme assez grand.
Quand avec son épouse.
Oui, c'est quand même quelqu'un qui épouse la veuve d'un médecin grec de Constantinople qui avait une réputation un peu mélangée et qui surtout à la limite qu'il ait des maîtresses ou autre, c'était extrêmement répandu à l'époque, mais qu'il lui soit resté fidèle de manière parfaite, du moins le croit-on le savoir, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il aimait profondément cette femme, c'est aussi assez extraordinaire, c'est assez exceptionnel dans ce milieu de cour. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui vivait à Versailles, un peu à l'écart. Il avait une petite maison avenue de Montreuil. Il s'y retirait très souvent avec sa femme. Et beaucoup de gens à la cour se plaignaient du côté fastidieux de toutes les réceptions, le formalisme extrêmement important de la cour. Et eux, de temps en temps, eh bien, parce que Madame de Vergennes se disait malade ou parce que lui n'avait pas envie d'aller à telle ou telle manifestation, il n'était pas là. Et tous les autres membres de la cour disaient, mais tout de même, ça c'est extraordinaire, mais finalement les admiraient en secret parce qu'ils avaient une espèce d'indépendance et ils menaient d'une certaine manière une vie bourgeoise avant l'heure. Ils avaient compris que l'époque probablement avait un peu changé et donc c'est quelqu'un qui est, je trouve, de ce côté-là, lui aussi assez d'avant-garde.
Mmh. Alors, un homme pragmatique, un homme de méthode, un homme travailleur, est-ce que Vergennes est aussi un théoricien? Alors, est-ce qu'il laisse dans le corpus diplomatique, j'allais dire, des grands principes dans lesquels nous pouvons puiser encore aujourd'hui?
Oui, j'ajouterais simplement pour compléter sur sa personnalité. C'est quelqu'un qui était, pour toutes les raisons que j'ai dit, aussi d'une grande incertitude. C'est-à-dire, on le sentait toujours inquiet.
Insatisfait, vous dites, oui.
Moins insatisfait que toujours en interrogation permanente, et notamment vis-à-vis du roi. Et ce qui est important, c'est que dans cette personnalité un peu complexe, il avait réussi à mettre en place avec le roi une relation d'une confiance incroyable. Il était en quelque sorte un peu le thérapeute de l'indécision de Louis XVI. Je trouve que ça, c'est assez important, c'est très important à souligner. Alors, est-ce qu'il a été un grand théoricien des relations internationales? Je le crois. Il faut néanmoins commencer par dire que c'était d'abord un très grand réaliste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui regardait les choses telles qu'elles sont. C'est pas du tout un idéaliste, etc. Vergennes croyait à l'usage de la force. Il disait toujours que la force est le moyen de se faire respecter et de faire respecter le droit, etc. Donc c'est important. Toutes les théories de Montesquieu, et d'autres. Vergennes était avant tout un réaliste. Deuxième chose, il réfléchissait beaucoup sur les principes de politique étrangère. C'était au ministère des Affaires étrangères une grande tradition que de faire des mémoires au roi. Quand il y avait un problème, on faisait un mémoire au roi. Alors, c'est pas naturellement le ministre qui écrivait tout. Il donnait un certain nombre d'orientations à ses services et puis il reprenait après. Et les mémoires au roi de Vergennes sont des morceaux d'anthologie, d'analyse politique. On voit une espèce de décortiquage de tous les éléments de la politique étrangère qui sont extrêmement importants. Et dans son approche de la politique étrangère, cette profondeur d'analyse se retrouve. Quel a été son grand apport? Moi, je crois que ça a été de dire, et c'est dans son premier grand mémoire de 1774 qu'il écrit au roi, la France est finie. C'est-à-dire que la France n'a plus à acquérir des territoires en Allemagne, sur la frontière nord, dans d'autres endroits, en Inde, en Amérique, etc. Alors que tout le monde ne pensait qu'à une chose, hein, que ce soit Frédéric II de Prusse, que ce soit Marie-Thérèse ou son fils François II, que ce soit Catherine II de Russie, c'était la seule chose qui comptait, c'était d'accaparer des propriétés du voisin. Vergène dit « la France est finie ». Et il le dit non pas par naïveté, on pourrait dire après tout, il a rien compris, il a été très naïf, et pendant que les autres agrandissaient leur pays, lui ne l'a pas fait. Et vous savez que le traité d'Aix-la-Chapelle, quand Louis XV avait rendu les acquisitions de la France, en particulier au nord de la France, on avait dit « bête comme la paix ». Je crois que l'attitude c'était d'Argenson qui était ministre à l'époque. L'attitude de Vergène est très différente. L'attitude de Vergène dit, c'est de dire, la France est finie, non pas parce qu'on abandonne une position de pouvoir, mais parce que c'est la seule condition pour que la France, ne montrant pas d'intérêts territoriaux, soit prise par tous les autres comme arbitre de l'Europe. Ça veut dire que quand il y a un conflit qui naît, par exemple celui que je décris de la succession de Bavière, tout d'un coup le titulaire de la royauté de Bavière meurt, son héritage est ouvert, l'empereur d'Autriche dit « je veux prendre l'héritage bavarois », il demande l'aide de la France. Et les Autrichiens nous disent « Ah ben, si vous preniez ça, on pourrait vous donner les Pays-Bas ». C'est extrêmement tentant, parce que la France, depuis toujours, veut les Pays-Bas. Et Vergène dit « Non, dès que la France montrera le bout du nez aux Pays-Bas pour prendre les Pays-Bas, aussitôt l'Angleterre dira « C'est insupportable, parce que c'est le fameux pistolet qui est sur la tempe de l'Angleterre, juste en face, à Anvers, à Rotterdam, etc. » Donc, surtout, ne bougeons pas. Si nous voulons avoir la paix en Europe, si nous voulons que la France soit au centre des équilibres, refusons des agrandissements territoriaux, laissons ces rapaces se déchirer entre eux, et tôt ou tard, ils vont venir nous voir en disant « Vous ne pourriez pas nous trouver une solution de compromis ?» Et c'est comme ça que l'on réglera les choses. Et la solution de Bavière s'est réglée à la paix de Teschen, par des négociations où la France et la Russie ont été les arbitres, et nous avons réussi à être, à cette époque-là, vraiment au centre de tous les équilibres. Donc c'était le premier point. Vergène dit « La France est finie, on est au centre des équilibres. » Et ces équilibres, ils sont au service du fameux droit public. Et ce droit public, c'est au fond l'ensemble des principes que les uns et les autres acceptent. C'est les traités qu'on a signés. C'est des mécanismes comme par exemple le Saint-Empire romain germanique, avec ce système d'organisation de l'Allemagne, avec des votes, avec des grands électeurs. Ce sont les quelques principes du droit de la mer, la liberté de navigation des mers, ce fait que, comme le Royal Navy le voudrait, on ne peut pas arrêter tout bateau, le fouiller et souvent le dépouiller. On est obligé de respecter la liberté des mers, les droits des neutres notamment, etc. C'est cet ensemble de choses qui fait qu'on doit les respecter et que c'est la condition de la paix. Parce que si on ne les respecte pas, qu'est-ce que c'est? C'est le brigandage. C'est je suis le plus fort, je prends le voisin. Et comme cette magnifique citation de Montesquieu que je sais, Montesquieu dit la seule manière raisonnable, agrandissez-vous par un bon gouvernement, c'est la seule manière raisonnable d'abaisser la maison d'Autriche. Agrandissez-vous par un bon gouvernement, c'est la seule manière raisonnable d'abaisser la maison d'Autriche. Et c'est au fond une optique extrêmement raisonnable qu'avait pris pour règle Vergène. Et cet ensemble me paraît, moi, extrêmement nouveau, c'est-à-dire c'est le réalisme, parce qu'on ne peut pas faire une politique étrangère sans réalisme, s'appuyer sur la réalité, mais mettre ce réalisme au service d'une idée universaliste qui est celle du droit public. Et on reprend la comparaison avec Talleyrand dont on a parlé au début. Talleyrand, vous vous rappelez, au congrès de Vienne, Humboldt, le délégué de la Prusse, dit « Mais monsieur le prince, vous venez de parler de droit public, qu'est-ce que le droit public vient faire ici ?» dit Humboldt. Et Talleyrand lui dit « Le droit public fait que vous y êtes, ici. Mmh. » C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de droit public, vous ne seriez pas le représentant de la Prusse au congrès de Vienne. Et Talleyrand utilise cette notion de droit public alors qu'il est dans une situation d'immense faiblesse. Bon, c'est un espèce d'artifice, très efficace d'ailleurs, alors que Vergennes, je dis, c'est encore plus novateur parce qu'il l'utilise alors qu'il est encore au fait de la puissance. Je trouve que c'est très, très important comme action de Vergennes.
Bernard de Montferrand, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot au regard justement de ce que vous venez de dire. Vergennes, c'est celui qui a gagné la paix, c'est un homme de paix, et c'est sa plus grande gloire, et c'est aussi la gloire de Louis XVI.
Alors, si Louis XVI avait quitté cette bonne terre en 1783, il aurait été considéré comme un des plus grands rois de France. Pourquoi ? Parce que l'économie française était à son maximum à l'époque. C'est pas les 30 glorieuses, mais les 60 glorieuses dont parle le roi Ladurie de tout le 18e siècle, où la France a eu une expansion incroyable. La France était revenue au centre des équilibres européens. Elle avait soutenu l'indépendance des États-Unis. On était en 2017, c'est le centenaire de l'intervention de 1917 dans la Première Guerre mondiale, c'est pas rien là, que la France ait porté les États-Unis sur les fonts baptismaux. Ensuite, on avait arrêté la puissance de la Royal Navy pour la première fois dans l'histoire de France en 1781 et 1785. Le budget de la marine était supérieur à celui du budget de l'armée de terre. Et la France était immensément respectée à l'époque. Ensuite est arrivée la Révolution. Et autant Vergennes a eu un succès éclatant en politique étrangère, autant évidemment en politique intérieure, comme tous les autres grands ministres de cette époque, il n'a pas réussi à réformer la France. Ça montre aussi que même la meilleure des politiques étrangères n'arrive pas à sauver un pays qui ne sait pas ou qui ne veut pas se réformer. Mmh. Et je trouve que c'est une leçon extrêmement importante.
Merci beaucoup, Bernard de Montferrand. Donc, Vergennes, la gloire de Louis XVI, un ouvrage à lire absolument, paru aux éditions Talendier, qui, en plus, a reçu le prix de la biographie de l'Académie française. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, chers auditeurs. Restez-nous fidèles. N'hésitez pas à parler de Storia Voce autour de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.